Vous le savez, le Hamas, le groupe terroriste, a fait échouer la reconduite de la trêve à Gaza parce qu'il ne veut pas que les femmes victimes de viol racontent ce qui leur est arrivé pendant leur détention. Ça, c'est ce que rapporte un responsable américain. Nous en parlons avec Élie Carmon, il est chercheur principal à l'Institut international de lutte contre le terrorisme à Herzliya. Et Blaise, vous avez pu vous entretenir avec lui.
Bonjour.
Vous êtes chercheur principal à l'Institut international de lutte contre le terrorisme à Herzliya. De nouveaux témoignages sur les violences sexuelles perpétrées par les terroristes palestiniens du Hamas le 7 octobre ont été portés à la connaissance du public dans un nouvel article publié dimanche, étayant les preuves de viol et d'autres atrocités largement mises en doute ou ignorées par la communauté internationale. Alors pour commencer, Élie Carmon, en sait-on un peu plus sur ces viols et violences sexuelles dont on parle ?
Écoutez, il faut comprendre pourquoi ce sujet est maintenant sur la scène internationale. Parce que nous, comme Israéliens, et surtout les experts et les chercheurs, nous savions depuis le 7 octobre qu'il y a eu vraiment des scènes de viol et des assassinats de femmes jeunes et plus jeunes, et que c'est une partie de la stratégie du Hamas qui tentait de faire peur à la population israélienne. Mais très vite, la communauté internationale, on l'a vu, on n'a pas accepté ces explications, ces témoignages qui étaient faits d'ailleurs avec des vidéos tournées par des terroristes même. Et donc, il y a deux ou trois semaines, une vague de otages qui ont été libérés, des enfants et aussi des femmes et quelques femmes plus vieilles. Et on a eu les premiers témoignages plus directs. Il faut dire que pour le moment, aucun otage qui a été libéré n'a pas parlé avec les médias, sauf, je crois, au début, la dame très, très ancienne, Lifshitz. Il y a plusieurs raisons pour cela. D'abord, les docteurs et les psychologues surtout ont conseillé aux familles et aussi à ceux qui ont été libérés de tenter d'être tranquilles dans les hôpitaux ou même à la maison pour ne pas passer de nouveau ce qui s'est passé pendant la période d'otage. C'est-à-dire, on sait très bien dans ces cas qu'il y a un impact psychologique très fort sur ceux qui ont passer des violences et non seulement psychologiques mais aussi physiques pendant la période d'otage. Deuxièmement, il y a encore beaucoup de ceux qui ont été libérés qui ont des parents, soit des frères, soit des parents, soit des enfants à Gaza, dans les mains du Hamas. Et le Hamas a menacé une partie des familles de ne pas parler. Autrement, ils ont dit même, nous savons exactement quel est votre adresse, et nous arriverons à prendre vengeance et vous tuer. Troisièmement, c'est le service de sécurité qui a dû interroger. C'est un processus très délicat pour interroger ceux qui ont été libérés, pour savoir beaucoup plus ce qui se passe sur le terrain, pour avoir plus d'informations sur où ils ont été portés, quelles étaient les conditions, ainsi de suite. Et donc, pour le moment, finalement, Israël et surtout la société israélienne a compris que la communauté internationale et surtout les organisations féministes de tout le monde, des Nations Unies, n'ont pas réactionné à ces témoignages.
Justement, Élie Carmon, vous parlez de la communauté internationale, l'ONU en tête et la UN Women restent très silencieuses à ce sujet. C'est une preuve de plus qu'Israël ne peut pas compter sur ces organisations dans le conflit qu'il oppose au Hamas ?
Bien sûr, même avec la Croix-Rouge, on a des problèmes. On voit que la Croix-Rouge n'a pas fait beaucoup d'efforts pour arriver à visiter les otages. Et les organisations, je crois, de la femme à l'ONU, seulement il y a deux ou trois jours, ont fait une déclaration assez mitigée. Et donc, c'est un effort pour expliquer à la communauté internationale, au public, sur la scène internationale que ce que Hamas a fait, c'est vraiment des crimes contre l'humanité. Et maintenant, il y a beaucoup plus de témoignages directs. Il y a des gens, surtout par exemple dans un des comités de la Knesset, où il y a eu des témoignages ouverts, mais censurés dans le sens qu'ils n'ont pas été retransmis par les médias, comme d'habitude on le fait dans les discussions au Parlement. Il y a eu cette délégation qui a été aux États-Unis et a parlé devant beaucoup de diplomates, beaucoup de NGO à l'ONU. Et il y a aussi cette déclaration de la Maison Blanche qu'ils savent que le fait que Hamas n'a pas accepté la dernière condition de groupe de femmes, 15 femmes et 2 enfants, il n'a pas accepté la libération parce qu'il sait que ces femmes ont été violentées et peuvent porter des témoignages très désastreux, je voudrais dire, parce que on voit que le Hamas à l'étranger, pendant toutes ces émissions et interviews, tente de présenter cette mascarade, si vous voulez, comment ils sont très sympas avec les otages pendant leur libération, qu'ils ont reçu toute l'aide nécessaire, mais c'est un grand mensonge et donc c'est une tentative de couvrir les crimes qui ont été faits pendant le 8 octobre et aussi pendant la période de prisonnier.
Pour rebondir là-dessus, donc le Hamas a déclaré hier rejeter les accusations en qualifiant ces accusations de mensonges. Ça fait partie de la stratégie du groupe terroriste à l'international.
Oui, bien sûr. Dès le début, ils ont compris parce que c'était une stratégie dans le style de Daesh. Daesh aussi avait la stratégie de faire peur à ses ennemis et même à ceux parmi les musulmans et les organisations même djihadistes qui n'acceptaient pas leur idéologie et leur comportement. Et le Hamas suit la même ligne. Et d'ailleurs, ils ont commencé avant le Daesh parce que les premières exactions et les crimes ont été contre le Fatah, les membres des forces de sécurité de Fatah en 2007, quand ils ont pris le pouvoir à travers un coup de militaire. Et alors, ils ont tué, assassiné 200 membres des forces de sécurité, aussi des civils, des fonctionnaires palestiniens à Gaza, de manière vraiment criminelle. Et même pendant toutes les opérations qu'on a eues de 2014, 2018, 2021, ils ont exécuter en place publique des gens du Fatah qui étaient en prison. Et ils ont dit qu'eux, ils étaient des espions qui donnaient des informations pendant ces opérations à Gaza. Et donc, c'est une stratégie d'un côté faire des crimes abominables et d'autre côté de refuser de reconnaître ce qu'ils font. D'autre part, on voit que certains des leaders de Hamas disent « Nous sommes prêts à continuer à faire 2-3 fois ce que l'on fait le 7 octobre. » Et ce que l'on fait le 7 octobre, c'est justement des crimes de guerre.
Ma dernière question, Eli Carmon, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le porte-parole du département d'État américain a déclaré que le Hamas ne voulait pas libérer les femmes otages, je cite, pour ne pas qu'elles parlent de ce qui leur est arrivé. Elles sortiront un jour des mains de ces terroristes, ces femmes?
Oui, c'est justement ce que non seulement la Maison Blanche, mais aussi aujourd'hui, Tzal, porte-parole de Tzal, a déclaré la même chose, que nous avons suffisamment d'indices et nous savons très bien de la bouche de ceux qui ont été libérés ce qui s'est passé là-bas. Par exemple, pendant les actions qu'on a fait le 7 octobre, on sait très bien, il y a des photos, comme je dis, des films, mais la majorité des femmes qui ont été violentées ont été assassinées. Donc il n'y a pas de témoignages de personnes vives qui ont réussi à passer ces jours terribles, mais il y a des témoignages probablement qui sont parmi les femmes et peut-être aussi les soldats qui se trouvent là-bas. Et aujourd'hui, on sait même qu'il y a eu peut-être des exactions sexuelles contre des hommes. Parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas seulement violence contre des femmes, mais aussi quelquefois contre des hommes ou contre des jeunes personnes.
Eli Carmon, je rappelle que vous êtes chercheur principal à l'Institut international de lutte contre le terrorisme à Herzliya. Merci d'avoir été avec nous dans le journal de Radio Judaïka.
Merci et bonne soirée.